Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de Mom to Be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Christelle Niki, la fondatrice de Mom to Be Party, première destination bien-être des futures et jeunes mamans que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis 10 ans, Mom to Be Party réunit des futures et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou. Un espace de dialogue et d'écoute, un espace inspirant où l'on prend du temps pour soi comme on en apprend sur soi, où l'on tisse de beaux liens avec d'autres femmes en plus de tisser au fil du temps le lien avec son bébé. Les hommes ont bien entendu toute leur place dans les échanges, les conseils et les témoignages. Toi qui n'as pas encore connu le bouleversement de la naissance, toi qui hésites à franchir le cap de l'entrepreneuriat, toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mère et la bienveillance d'experts, tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de Mom to Be Party, être ensemble. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'inviter Camille, entrepreneuse dans le domaine du bien-être, enceinte de son deuxième enfant. Le chemin vers une maternité épanouie n'a pas été un long fleuve tranquille pour Camille, tant son quotidien ne fut que souffrance pendant et après sa première grossesse. Comment est-elle arrivée à accepter son corps et lui faire confiance pour porter de nouveau la vie? Comment a-t-elle pu renouer avec son conjoint après un baby clash? Dans quelle mesure le travail a-t-il été une soupape pour se retrouver en tant que femme? Ex-femme de la nuit, Camille est devenue femme d'un nouveau jour. Bonne écoute. Coucou Camille.
Salut.
Je suis heureuse de venir à ta rencontre, à quelques semaines de ton accouchement. Ce n'était pas gagné, hein. Car encore la semaine passée, tu recevais un appel de ta gynécologue t'invitant à contrôler d'urgence ta pression. Mm-hmm. D'un coup, on pense complications, pré-éclampsie, accouchement avancé. Tu me semblais si zen en me disant qu'au fond de toi, tu te sentais bien et que tu allais confiante faire ton contrôle, suivre ton instinct de future maman. Est-ce inné chez toi?
Inné. Aujourd'hui, un petit peu plus. Ça n'a pas toujours été le cas, mais oui, j'essaie de me poser justement pour rester sereine jusqu'à la fin de cet accouchement. Après, je ne te cache pas que cette deuxième grossesse a été plus compliquée que la première, sous une autre forme. Disons que la première, ça a été plutôt psychologique et physique qui ont été, voilà, ça a été une étape dont on parlera certainement après. Mais cette deuxième grossesse a été très difficile au niveau des symptômes sur les 6 premiers mois. Et aujourd'hui, je me sens mieux. Voilà, j'ai réussi à lâcher un petit peu du lest, surtout au niveau de mon travail. Mais c'était surtout des symptômes, de la fatigue, la gestion de la première. Enfin voilà, des choses auxquelles on ne pense pas tout de suite quand on fait une deuxième, quand on a une deuxième grossesse.
En plus de tenir ton compte Insta, hein, qui est French Little Crow, tu exerces une activité indépendante dans le marketing de réseau depuis plusieurs années, ce qui te permet de t'organiser un peu comme tu le souhaites. Et puis aussi de récolter finalement pour cette deuxième grossesse les fruits de ton travail. Hein. Pourtant, le boulot, ça n'a pas été toujours une love story.
Alors ça, c'est clair et net que le boulot, ça n'a pas été toujours une love story. J'ai auparavant, alors dans un domaine qui n'a rien à voir, j'ai travaillé pendant 12 ans dans l'hôtellerie-restauration. Alors c'est effectivement une période que j'ai énormément appréciée. Je ne vais pas cracher dans la soupe non plus. Ça m'a appris à travailler de façon, de ne pas compter mes heures. À vraiment me challenger aussi, parce que c'est un métier où on n'est pas forcément payé sur nos heures supplémentaires, on a des heures décalées, on travaille parfois 7 sur 7, que j'ai fait les saisons. J'ai eu vraiment une dizaine d'années, en fait, où je survolais. J'avais l'impression de survoler, en fait. C'était très... y a un esprit très superficiel dans ce domaine-là. Surtout, j'ai travaillé dans des établissements assez luxueux, etc. Disons que j'étais plus du tout à ma place arrivée à certains moments. Surtout que l'horloge biologique tourne. Donc, arrivée vers 27-28 ans, je commençais vraiment à avoir envie d'autre chose. À savoir, en plus, que ces 12 années que j'ai passées, j'ai démarré vraiment tout en bas. Et j'ai évolué, c'est-à-dire que j'ai fait les premiers boulots un petit peu comme on n'a pas trop envie de faire, c'est-à-dire la plonge, être commis, etc. Et puis, à la fin de ma carrière, j'étais quand même responsable d'un établissement où j'avais donc conçu toute la carte, etc. C'était quelque chose qui me parlait, j'étais passionnée par mon métier, mais j'étais plus en adéquation avec les horaires, j'étais plus en adéquation avec l'environnement. J'avais besoin d'autre chose et j'avais besoin aussi de voler mes propres ailes. je sentais ce besoin de me détacher. Je ne voulais pas être gérante parce que j'avais quand même forcément un propriétaire au-dessus. Et je commençais à faire du consulting pour des créations de cartes de cocktail pour des établissements sur Genève. Mmh. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'étais prête à devenir indépendante, mais je n'avais pas les armes pour.
Ouais. En plus, tu m'avais dit que tu n'avais pas forcément de diplôme. Hein,
pas du tout. Voilà, j'ai fait une première année en HEC. Parce que mon père voulait absolument que je fasse des études de commerce. Donc, j'étais très douée, mais ce n'était pas le moment. Même si aujourd'hui, c'est vrai que je suis un petit peu dans le commerce aussi, mais ce n'était pas le bon moment. Donc, j'ai voulu écouter mon instinct et faire mes études d'art. Vu qu'à l'époque, j'avais fait deux ans et demi en école d'art. Et je n'ai pas fini mon diplôme. Je suis partie du jour au lendemain faire les saisons. Donc voilà, donc pas de diplôme fixe à part le bac. Et c'est vrai que ça ne m'a pas empêchée de me reconvertir et de réussir au niveau professionnel.
Ouais. Et donc, en fait, ton choix de quitter cet environnement s'est fait à quel moment ?
Alors, tout simplement, donc déjà, il y avait cette envie d'indépendance. Et puis, je suis tombée enceinte, tout simplement. Je pense qu'il y avait déjà une petite part de moi qui avait envie de devenir maman. Ça, c'est la première chose. Hein. Et de renouveau, d'autre chose, de quelque chose de plus sain. Parce que je voyais bien que mon hygiène de vie ne suivait pas du tout, en fait, avec mon mental. Que mon corps commençait à me parler déjà à cette époque-là. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus très bien, qui était plus en adéquation. Enfin, j'étais plus alignée, tout simplement, hein, comme on pourrait dire. Et j'avais déjà pour projet de reprendre mes études, mais une reconversion, ça fait toujours un peu peur. Et en fait, ça a été le déclic au moment de ma grossesse. Je me suis dit, je vais apporter le meilleur à ma fille. Je vais apporter, donc forcément, le meilleur pour moi-même, parce que ça passe par nous hein, pendant la grossesse. Je partais de loin. Voilà, je partais de loin. J'avais une hygiène de vie, comme je disais, qui était assez... l'hôtellerie-restauration, on vit à des heures décalées, on mange sur le pouce, on n'a aucune notion de prendre soin de soi. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je voulais appliquer sur mon corps, parce que je savais que c'était important pour bébé. Je commençais à regarder un petit peu au niveau de mon alimentation, toutes ces choses-là. Et c'est ce qui m'a amenée vers le côté du... tout ce qui était le domaine du bien-être. Sans savoir trop où j'allais, pour le moment.
Ouais, ça s'est fait en tout cas très, très, très progressivement.
Totalement.
Parce que cette première grossesse a été aussi placée sous le signe du rejet.
Alors, complètement. Il faut savoir que j'ai donc travaillé pendant 12 ans dans l'hôtellerie-restauration et donc dans des établissements, clubs, etc., assez luxueux, notamment Courchevel, enfin voilà, Genève. L'apparence est très importante dans ce domaine-là. On ne va pas se le cacher. Donc, il y a ce côté très superficiel qui était présent, en fait, dans mon quotidien et qui faisait que j'y attachais énormément d'importance, tout simplement, en fait, à force. Et je me suis retrouvée avec une perte de contrôle totale sur mon corps. Et je n'étais pas prête à ça. J'avais déjà certainement quelques troubles alimentaires parce que je pense que j'étais dans une obsession toujours d'être plus maigre, plus mince, plus... toujours mieux, en fait. On a l'impression de se voir déformer un peu dans le miroir. Et c'est vrai que le jour où on tombe enceinte, ben, notre corps, on doit le laisser faire ce qu'il a à faire. C'est le plus beau métier du monde, c'est de donner la vie. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément préparé à ça. Et psychologiquement, ça a été très dur. J'ai fait un rejet total et il y a une chose qui me choque par rapport à ma grossesse actuelle et la grossesse que j'ai vécue avec Raphaël, c'est que je n'ai aucune photo de moi à cette période-là. Je crois que j'ai dû avoir une ou deux photos. J'ai fait un rejet total de mon corps et je me détestais, en fait. J'étais heureuse d'avoir un petit bout à l'intérieur de moi, mais je n'arrivais pas à concevoir toutes ces étapes psychologiques et physiques qui s'enchaînaient. Ça a été très dur à ce moment-là, ouais.
Trop difficile. Et en plus, tu n'avais qu'une envie, c'était d'accoucher, j'imagine.
Oui.
Et puis de retrouver au plus vite ce corps qui te convenait.
Complètement. Et puis en plus, d'ailleurs, j'ai accouché un mois en avance. Hein. Ça a été un accouchement prématuré. Elle arrivait plus tôt. Prématuré. 4 semaines en avance, donc elle était en bonne forme. Et puis, c'était un beau bébé. Par contre, mon accouchement s'est très mal passé, pour rajouter une couche.
Le
travail s'est fait assez naturellement. Hein. J'ai pas eu de contraction ou de problème pendant cette grossesse. J'ai pris beaucoup de poids, par contre. J'avais pris 24 kilos, donc pas à terme en plus. J'avais les contractions qui se sont faites sur mon dernier rendez-vous gynécologique. Je suis rentrée à la maison, on avait 45 minutes de route quand même pour aller à l'hôpital. Donc, si jamais, voilà, il y avait des contractions qui se continuaient, il fallait absolument que j'y aille. Et effectivement, pendant les 24 heures qui suivaient, en fait, j'ai accouché. Donc, le travail s'est fait, on a été à l'hôpital le soir. J'ai pas eu spécialement trop mal ou trop j'ai pas trop souffert. Par contre, arrivé à l'hôpital, tout s'est un petit peu enchaîné jusqu'à la péridurale. Et à partir de ce moment-là, en fait, le lendemain matin, donc la péridurale a été posée, mes douleurs n'avaient plus rien à voir avec l'accouchement. Et donc, je me suis fait ausculter. D'ailleurs, je me souviens parce que Nico, ça faisait 11 heures qu'il m'accompagnait dans mes contractions, etc. Il a été présent sur ce moment-là. Et en fait, je me suis retrouvée à hurler. Le pauvre était tombé endormi, il ne m'entendait même pas. Et je me suis retrouvée avec 10 personnes dans la salle, dans la salle où j'étais, dans la chambre. Et j'entends code rouge, on veut un deuxième avis. Je me retrouve avec plein de sages-femmes, des médecins, etc. On m'ausculte, hémorragie. On ne sait pas ce qui se passe. On me parle de pré-rupture, enfin de rupture utérine, etc. Donc c'est vrai, sur ce moment-là, j'ai 15 000 émotions qui passent au travers de ma tête. Je souffre vraiment. Et là, cette fameuse légende qu'on dit, qui nous parle du fait qu'un accouchement n'est pas forcément très douloureux ou qu'on oublie la douleur. Alors oui, je l'ai complètement. J'ai pas oublié cet événement, mais j'ai oublié à quel point j'avais eu mal sur le moment. C'était hors du temps, en fait. C'était incroyable. Et bouleversant. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, mon accouchement n'allait pas se passer de la bonne manière. Pourtant, j'étais tellement sur ce point-là, j'étais tellement sereine. Donc, je suis partie au bloc, tout simplement. Et on a réveillé Nico. Et j'aurais pas voulu être à sa place non plus, hein, parce que on l'a mis dans une salle en disant, il m'a vu passer, du sang, etc., en train de crier. Il savait même pas si sa fille allait bien, si sa femme allait bien. On lui a juste dit, mettez-vous dans la salle d'attente, on revient dans 20 minutes. Et je suis partie au bloc, on m'a mis un masque sur le visage et à ce moment-là, je me suis arrêtée de pleurer parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir, enfin le médecin m'a dit, ou une infirmière, je ne sais plus, on va vous anesthésier, on va vous faire une anesthésie générale, mais votre bébé va bien, ne vous inquiétez pas. Et juste le fait en fait d'entendre ça, moi je ne savais pas comment j'allais parce qu'apparemment c'était moi qui allais mal hein, de toute façon, j'ai arrêté de pleurer. Je me suis calmée, j'ai arrêté de pleurer parce que je savais que mon bébé allait sortir et que ça allait. Et après, bien sûr, il y a eu un bouleversement au moment du réveil, parce qu'on se réveille après 9 mois avoir porté la vie, on se réveille avec un ventre vide. Il y a mieux.
Et puis ton bébé qui n'est pas à côté.
Exactement, donc j'ai fait un scandale dès mon réveil, je voulais absolument l'avoir, amenez-moi dans la chambre, etc. Et je l'ai vu, je me suis effondrée en larmes, forcément, mais ça a été très dur justement, ça s'est enchaîné derrière par rapport à ce rejet que j'avais eu par rapport à mon corps. L'après, le postpartum a été très très difficile parce qu'en fait je me suis sentie incapable. Je me suis dit c'est de ma faute, je n'ai pas réussi à accoucher correctement. J'ai raté mon accouchement. Pour moi, c'était ça, en fait. C'était vraiment... donc, ça a été très dur derrière.
Et ça a duré un petit peu de temps, ce sentiment. Enfin, comme t'es rentrée à la maison, tu te sentais pas bien. En plus, t'avais donc une césarienne hein, d'urgence. Donc, les douleurs, le fait de devoir se remettre de l'accouchement.
Mmh, complètement. Et ça a duré un petit moment. On m'avait parlé du baby blues, effectivement. Je ne pense pas que ce soit un baby blues. On était plutôt sur une dépression qui a duré quand même quelques mois, voire quasi une année. Alors, il y a eu des éléments extérieurs qui ont fait aussi, qui ont amené à ça. Mais c'est vrai que le postpartum, je ne me rendais pas compte à quel point ça m'a... En fait, on ne nous prévient pas. Il y a quelque chose qui me sidère un peu. Je sais qu'il ne faut pas faire peur aux mamans, etc. Ouais. Il ne faut pas être dans la négativité de se projeter ou d'appréhender. Hein, c'est ce que je dis souvent. Mais on ne nous prévient pas des éventuels... on ne nous prévient pas d'un éventuel choc émotionnel, physique, d'un accouchement qui se passe mal aussi. On nous prévient, mais sans trop... On survole un petit peu le sujet. Et c'est vrai que ça a été très dur, parce qu'à chaque fois que ma fille pleurait, je croyais que c'était à cause de moi, je croyais que c'était...
En étant passé par ce que tu as vécu, tu te demandais si c'était pas aussi une séquelle. Et c'est vrai que dans le cas de certaines césariennes, c'est important aussi de... Enfin, en tout cas, nous, on en parle dans notre e-book hein, sur la césarienne, que, qu'il y a une certaine mémoire, en fait, hein, corporelle, aussi bien chez la maman mais que chez le bébé, de l'accouchement en général, mais aussi de la césarienne. Donc, il existe une sorte de rituel pour pouvoir justement un petit peu se reconnecter s'il n'y a pas eu justement cette connexion au tout début. Et je peux très bien m'imaginer cette souffrance. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que tu dis, oui, bon, on ne nous prépare pas à ces éventualités. Toutefois, tu étais quand même passée par un accouchement très compliqué d'aller au bloc, anesthésie générale, et on te remet dans la nature comme ça.
C'est ça. Donc, j'ai eu un petit accompagnement d'une sage-femme comme n'importe qui. Mmh. Et c'est... c'est à ce moment-là, en fait, on se rend compte qu'on est livré à nous-mêmes, avec nos émotions, avec un choc plus ou moins important, parce qu'il y a des personnes chez qui ça se passe très bien, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai qu'on n'a pas de mode d'emploi. On sait pas, on est un peu jeté, effectivement, dans la nature, avec nos émotions, avec notre douleur, avec notre bébé. Alors, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, ça c'est clair et net, mais on est vraiment... Je pense que chaque maman se sent bouleversée à la suite d'un accouchement. Et je trouve qu'il y a quand même un manque d'accompagnement là-dessus, ça c'est sûr.
Et est-ce que tu as pu compter sur ton conjoint à ce moment-là ?
Alors, c'est l'un des aléas qui a fait que certainement ça a provoqué une certaine dépression derrière et que j'ai eu du mal à me relever. Il a en fait... Nico travaille dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, c'est là où on s'est rencontrés, etc. Et moi, à cette période, j'étais dans une transition où je devenais maman, donc en fait, je faisais abstraction complète de ce milieu-là, qui pour moi n'était plus en adéquation. Et lui était encore dans ce domaine-là, donc il travaillait de nuit, en club. Je pense qu'il a fait un déni aussi du fait d'être papa. Peut-être que c'était trop tôt, peut-être qu'à un moment donné, ça l'a... Je sais pas, il a eu peur aussi. Et en fait, du coup, on n'avait plus aucune communication. Il était très peu présent. Il passait sa vie à l'extérieur. Voilà. Que ce soit le week-end ou la semaine, le travail. On n'était vraiment plus sur la même longueur d'onde. Ça a duré assez longtemps. Et ça a été très difficile à supporter parce qu'effectivement, pas forcément de soutien. Il faut savoir en plus qu'on habitait dans une ville qui était complètement excentrée. Moi, j'étais sans voiture. J'avais juste ma fille. Et j'étais toute seule avec ma fille dans ma cage dorée. Et avec tout ça, avec tout ce bouleversement, quoi. Mmh. Donc, ça a été assez difficile, ouais, à ce moment-là.
Et sans travail aussi.
Exactement. Mmh. Oui, parce que... Ouais, oui, c'est vrai que... Alors, il faut savoir que je suis quand même assez carriériste. Je suis une maman qui a besoin de s'épanouir dans son milieu professionnel. Et après 12 années dans un métier que je connaissais par cœur, où j'avais une belle évolution, mais que faire par la suite avec un bébé en bas âge ? Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire ? Donc là, j'étais dans ma cage dorée. En plus, je suis d'un tempérament très indépendante parce que mon père m'a inculqué ces valeurs-là. Quand, dans la vie, ma fille, il faut que tu te donnes les moyens d'eux. Quand on veut, on peut. Il faut travailler pour avoir ce dont on a besoin, enfin ce dont on a envie. Et donc, j'ai toujours été dans cet état d'esprit. D'ailleurs, même à l'époque de mes 20 ans, j'ai déjà eu des premières galères. Hein, à cette époque-là, il m'a redit une phrase il n'y a pas très très longtemps. Il m'a dit, tu sais ce que tu m'as dit un jour, tu as eu je ne sais plus quel problème, et tu m'as dit, tu sais papa, il ne faut pas que tu t'inquiètes, je rebondirai toujours, quoi qu'il arrive, toute ma vie. Et ça l'a rassuré parce que j'avais une vingtaine d'années à cette époque-là, et il me dit, tu sais, aujourd'hui, tu as 33 ans, et tu as toujours réussi à rebondir, quoi qu'il arrive. Donc, c'est...
C'est fort parce que ça veut dire que tu avais quand même cette confiance profonde en toi, et c'est ce qui t'a certainement servi dans ces moments, c'est
difficulté. Ouais. Complètement. Et même si c'est vrai que là, j'étais vraiment très, très bas et ça a été un moment très difficile où on a du mal sur le moment même à se dire... J'étais pas encore dans cet état d'esprit de me dire que quand j'ai un défi face à moi, parce qu'aujourd'hui, les obstacles, je les prends comme des défis et je les accueille à bras ouverts parce que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit. Mais c'est vrai que... À l'époque, j'avais pas cette notion-là. Et je pensais que j'étais dans une série noire, dans un trou noir où je n'allais pas en sortir, je me voyais pas. C'est difficile de voir le positif dans ces moments aussi intenses de négativité où on a un enfant, on ne sait pas comment faire, on est bouleversé par l'événement de l'accouchement, on ne se reconnaît plus dans la glace, on se déteste, et on a notre couple aussi qui ne va plus. Et on n'a plus de travail. Donc il y a épanouissement très difficile à avoir en tant que... J'adore mon rôle de maman, attention. J'adore mon rôle de maman. Ma fille, je l'aime de tout mon cœur. Ça a tellement déclenché de belles choses chez moi. Mais ce moment-là était très, très difficile. Et justement, toute cette... toutes ces épreuves, en fait, m'ont forgée et m'ont amenée là où je suis aujourd'hui et à devenir qui je suis. Mmh. Mais sur le moment même, on a du mal à voir tout ça. Donc, il faut tenir debout, hein, faut rester...
Quelle a été la porte de sortie ?
Alors, la porte de sortie, déjà, ma fille, forcément, on s'accroche à ça parce que on se rend pas compte à quel point ces petits bouts nous donnent de l'énergie et de la force et de déplacer des montagnes, c'est incroyable. Alors qu'on est censé leur en donner. Mais dans le sens inverse, c'est vrai qu'ils sortent une énergie qu'on sous-estime, en fait, qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a eu aussi ce fait d'avoir envie de reprendre une activité. Alors, je n'avais pas beaucoup de choix, vu que j'étais maman allaitante, et j'avais envie aussi de pouvoir organiser mon temps comme je le souhaitais. Et donc, je suis tombée sur une publication d'une amie sur Facebook, qui parlait d'une activité à domicile, comme quoi elle était maman, qu'elle était maman seule, etc., et qu'elle joignait les deux bouts grâce à ça. Je me suis dit, je ne connais pas du tout le domaine, mais aujourd'hui, ça arrive là, à un moment donné où j'en ai besoin, je vais tenter le coup. Je ne connais pas, je vais me former, je vais essayer de voir si ça colle. Peut-être que ce sera ma porte de sortie, effectivement, de pouvoir déjà m'épanouir en tant que femme. Et sortir de ce gouffre, d'essayer de faire quelque chose. Parce que je ne suis pas qu'une maman. Je veux aussi être une femme, je veux aussi être une chef d'entreprise, comme aujourd'hui. Et ça m'apporte tellement de choses. Ça a été l'élément déclencheur, en fait, la porte de sortie. Voilà, ça a été ce moment-là. Ça a été de trouver le domaine dans le bien-être dans lequel je voulais être, justement. De me former, de trouver une passion. Et d'évoluer. Et maintenant, ça fait trois ans et demi que ça dure. Et franchement, je suis ravie d'avoir sauté le pas, vraiment.
Tu dis que tu reprends une activité professionnelle et que ce boulot va te reconstruire physiquement. Pourquoi ?
Alors déjà, tout simplement parce que c'est le domaine du bien-être. Effectivement, j'ai appris à prendre soin de moi. J'ai appris à écouter mon corps. Alors attention, ça n'a pas été du jour au lendemain, parce que les gens sont toujours un petit peu surpris et de se dire non, j'ai pas le courage de le faire. C'est trop compliqué, je peux pas arriver à une perfection au niveau de mon hygiène de vie. Mais en fait, j'ai démarré petit à petit, pas à pas, et j'ai compris que j'avais besoin de m'octroyer du temps. J'ai compris que c'était vital. Des moments de calme, des moments pour moi, de me chouchouter, etc. Et en fait, ça venait instinctivement, parce que je n'aime pas le fait de prôner quelque chose que je ne fais pas. Donc quand je parle justement de mes astuces et de mes conseils que je donne régulièrement aux femmes via mes réseaux, je le fais aussi pour moi. Puis il y a des moments aussi où je craque et que, comme tout le monde, je ne fais pas forcément les choses très carré, et où je me fais plaisir, je ne mange pas que des graines, voilà, comme on pourrait croire, mais il faut savoir se faire plaisir, et justement, ça fait partie aussi du bien-être, et tout ça a été un cheminement, en fait, le fait de m'intéresser au corps humain, le fait de m'intéresser, de prendre soin des autres aussi, par le biais de mon activité, ben ça m'a reconstruit, parce que, effectivement, l'apparence, même si on est sur les réseaux sociaux, passait en second plan, mais... comment expliquer ? J'ai repris confiance en moi parce que je me suis donné des objectifs que j'ai commencé à atteindre tout doucement. Et au fur et à mesure du temps, je me suis sentie capable, tout simplement. Mmh. Et ça m'a redonné confiance en moi. Et puis j'ai énormément, cette période de troubles, en fait, d'épreuves, dans ce genre de domaine, dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de mindset. Et je me suis tournée vers le développement personnel, tout simplement, aussi. Les affirmations positives, des choses très bêtes qu'on ne fait pas forcément toujours et qui m'ont énormément aidée, en fait. C'est juste de comprendre que si je suis dans cette phase-là, c'est qu'il y a une raison et que ça m'amènera vers quelque chose de bien. Mais il a fallu que je sois dans cette activité et que je commence à me reprendre en main pour pouvoir comprendre tout ça.
Ouais, tout s'est finalement rééquilibré, parce qu'avant, tu mettais en effet le focus sur certaines choses, mm-hmm, ou personnes. Et petit à petit, tout s'est rééquilibré.
Complètement. Ça a été Alors, on évolue toujours, hein, encore aujourd'hui. Mais j'ai trouvé mon équilibre, effectivement. C'est le mot parfait.
Ça a eu un impact sur ton couple ? Enfin, du moins, parce que ton couple avait éclaté.
Oui, Oui, parce que c'est vrai que je me suis donné les moyens. Quand j'ai compris que j'étais capable de faire quelque chose de ce métier, pour moi, l'instinct de survie était plus fort que tout. Et c'est vrai que l'environnement dans lequel on était très compliqué, très négatif, très toxique. Et on était en train de tout simplement séparer nos chemins. Et arrivé à un certain moment, je suis voilà, avec mon activité, j'étais complètement en liberté, totale liberté financière. Et je suis partie, voilà, ça a éclaté sur une dispute au bout d'un an. Et je crois que ça a été aussi l'élément déclencheur qui a fait que je suis sortie de cette dépression. Et je suis partie donc avec ma fille sous le bras, il neigeait, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis partie avec ma fille à Annecy, parce que je voulais absolument revenir à Annecy. J'avais vécu deux années ici, et à l'époque, on était près d'Yvonne. Et j'avais dit que je voulais absolument revenir à Annecy, parce que c'est une vie où il y a un cadre de vie qui est juste incroyable. Et je voulais partir, donc je suis partie avec ma fille bras dessus, bras dessous. Et j'ai fait une douzaine d'appartements du jour au lendemain, et j'ai trouvé mon appartement dans lequel nous sommes actuellement. Et parce que j'avais décidé... Voilà, j'avais déclenché en fait tout ça. J'avais décidé de tourner la page, d'évoluer, parce que j'étais dans cette phase-là et qu'il y avait quelque chose qui me bloquait encore pour être vraiment dans l'épanouissement total. Et j'ai démarré de zéro, c'est-à-dire qu'on arrivait dans l'appartement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas d'électroménager. J'ai fait du camping pendant une ou deux semaines avec ma fille, mais j'étais tellement heureuse d'être ici que il y avait, enfin voilà, ça a été, là, ça a été la cerise sur le gâteau, on va dire. Et j'ai continué d'évoluer et je me suis épanouie à nouveau en tant que femme. À ce moment-là, je me suis retrouvée en tant que femme. Ça n'a pas toujours été facile tous les jours, hein, on est bien d'accord. Maman seule, c'est parce que les relations avec le papa étaient un peu compliquées à ce moment-là. Mais ça m'a permis voilà, de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Il y a encore eu une évolution qui s'est faite derrière. Et puis on s'est retrouvés. C'est-à-dire que sur des discussions, sur une évolution de la part du papa, surtout de quitter ce milieu qui n'était pas forcément adapté à une famille, ça a été l'élément déclencheur. On s'est donné une seconde chance après un an. Et aujourd'hui, il y a un équilibre qui se crée. On se respecte l'un et l'autre. On attend un deuxième bébé. C'est un excellent papa. Enfin, je ne peux pas espérer mieux. Et voilà, donc les choses se font. Parfois, on a des épreuves de vie et des étapes qui font qu'on ne s'y attend pas, mais finalement, pour mieux redémarrer derrière. Et voilà.
Donc, et puis, vous ne manquez pas de projets, et puis même encore de challenge à venir, hein, en tout cas.
Oui,
que ce soit. Alors, déjà un deuxième enfant, ça c'est sûr. Mais c'est pas celui-là auquel je pensais, mais par rapport aussi à ton souhait, voilà, de toujours aussi te renouveler ou d'évoluer, mais c'est le cas aussi pour lui, parce que dans le milieu de la restauration, on sait bien qu'il a été impacté fortement par le Covid, donc ça met encore une pression, et c'est aussi une pression que toi tu as ressentie pendant cette deuxième grossesse, hein, si je me trompe pas.
Oui, tout à fait. Quand on est entrepreneur, passionné par son travail. C'est difficile de lâcher prise. Je crois que ça a été le point un peu le plus difficile de cette deuxième grossesse, donc rien à voir avec le côté physique et psychologique, mais la conscience professionnelle qui vient frapper à ta porte et qui te dit non, il ne faut pas que tu lâches, non, il ne faut pas que tu lèves le pied, non, tu n'as pas le droit. Et ça, c'est vrai que c'est un peu, je ne peux pas dire un défaut, mais j'ai tendance à vouloir toujours faire plus, et puis dès que j'ai une idée, je la mets à plat et je me dis, c'est un projet que je veux faire dans les mois à venir ou dans les années à venir. J'aime bien, je pense qu'on n'a qu'une vie, la vie est courte, j'ai soif d'apprendre, j'ai soif de vivre, j'ai soif de faire des choses en fait, de construire. Au vu des symptômes, au vu de ma fatigue, parce qu'une deuxième grossesse est toujours plus compliquée, enfin, physiquement parlant, j'ai dû lâcher du lest, tout simplement. Parce qu'à une période, effectivement, sur mon sixième mois, je faisais un petit peu de problèmes au niveau respiratoire, enfin, au niveau de tension et un peu de tachycardie. Donc, j'avais tendance à avoir mon cœur qui s'emballait assez rapidement, tout simplement parce que je me mettais la pression à moi-même. Je subissais, en fait, et je suis quelqu'un à la base d'anxieux. Et d'ailleurs, par les méthodes naturelles avant ma grossesse, j'avais trouvé mon équilibre. Maintenant, enceinte, nous interdit pas mal de choses. Mais c'est vrai que j'ai ressenti cette pression et j'arrivais pas à lâcher le côté activité professionnelle. Et en fait, j'ai mis un petit temps à le faire. Et aujourd'hui, j'ai complètement lâché. Et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien et même si ça peut déranger peut-être certaines personnes, parce que je travaille aussi en équipe, et parfois on se dit, mais on culpabilise voilà, de ne pas être là, mais en fait, je suis enceinte. Et être enceinte, c'est un métier à temps plein aussi, et ça peut être fatigant. Ça peut être déroutant, effectivement, si on a des symptômes. Et c'est un moment d'une vie où voilà, il faut se poser. Mon métier reprendra après mon congé maternité, tout simplement.
Oui, c'est sûr, c'est déjà pas simple de devoir subir les remarques de son entourage, que ce soit la famille, les amis. Mais si en plus, on se met nous-mêmes
une pression,
alors là, c'est plus possible. Après, je ne peux que la partager parce que j'ai été comme toi... Aussi indépendante quand j'ai eu mes deux grossesses. Et en effet, il y a un gros stress quand même qui se pose sur les épaules des femmes entrepreneurs, puisque c'est très difficile d'arrêter son activité pendant la grossesse. On est censé aussi l'arrêter aussi pour pouvoir toucher ses indemnités. Enfin bref. Mm-hmm. Et puis, on a des clients, on ne peut pas arrêter les projets comme ça de bout en blanc. Donc, et après, c'est vrai que ça nécessite un petit peu d'organisation et puis d'une certaine discipline en plus, comme si on n'avait pas déjà.
Totalement.
Ce n'est pas simple. Mais je vois tout à fait de quoi tu parles. Mais du coup, oui, quand on parle de remarques, les remarques qu'on se fait à soi-même et les remarques aussi que tu as pu avoir aussi de la part de ton entourage, tu as dû aussi faire le tri, j'imagine, pour te sentir bien.
Ah, ça, c'est sûr que j'ai fait le tri. Et je pense que ça se fait de toute façon au fur et à mesure du temps. Hein, la vie évolue, on évolue, on change, on grandit, on mûrit. On ne reste pas forcément toujours avec les mêmes personnes tout au long de notre vie, hein, parce qu'il y a, voilà, y a une certaine évolution. Je me détache un maximum des personnes qui se positionnent pour me donner des conseils sans même avoir... Comme je dis souvent, ce sont souvent ceux qui n'ont pas d'enfants qui vous donnent les meilleurs conseils. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, sur cette première grossesse, j'avais eu énormément de remarques concernant mon allaitement. Mais tu vas allaiter combien de temps? Mais tu vas quand même pas garder ta fille en cododo aussi longtemps, etc. Elle va plus réussir à se détacher de toi. J'ai envie de dire, mais la personne la plus amène à savoir ce qui est bon pour son bébé est la maman. Donc, on vit quand même en osmose pendant 9 mois l'une et l'autre. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un petit point que les proches devraient savoir. Chacun fait comme il le sent. Et comme je disais souvent, il n'y a pas de maman parfaite, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, j'ai fait du cododo et je peux vous dire que ça s'est très bien passé au niveau de la transition dans la chambre, au niveau de la transition dans le lit. Ma fille a totalement confiance en elle. C'est un petit amour et je ne regrette pas de l'avoir fait. Je le referai une deuxième fois, le cododo et l'allaitement, aussi longtemps qu'il soit, qu'il faudra. Donc, c'est vrai que ça peut être déroutant. Et puis, encore une fois, avec tout ce qui s'accumule au niveau émotionnel, de devoir recevoir des remarques, il faut vraiment... Il faut se blinder. Il faut se blinder. J'en parlais avec une amie il n'y a pas très longtemps. Il faut vraiment se blinder post-accouchement.
Oui, c'est important. Donc là, tu abordes cet accouchement de manière plus sereine. Et puis, tu prends plus soin de toi.
Oui, totalement. Et puis, plus sereine, comme je disais, j'essaye de vraiment... la première fois, on est jeté un petit peu dans la nature comme ça et on appréhende quand même malgré tout, hein, parce que c'est tout nouveau. On se dit, est-ce qu'on va bien faire les choses? Là, les réflexes de maman sont là, donc je suis encore plus... Enfin, je suis bien sereine. Mais je ne veux pas appréhender justement ce deuxième accouchement et comment ça va se passer. Parce qu'effectivement, comment dire? Un deuxième enfant, c'est sport. Ça s'est très bien passé avec Raphaël. Elle a fait ses nuits très tôt, etc. Mon accouchement, bon, mise en place un petit peu, on est bien d'accord que c'est pas toujours évident. Mais ça a été. Et je me dis, cette deuxième fois, il va falloir lâcher prise, tout simplement. Et comme j'ai pris l'habitude de m'écouter et d'écouter mon corps, et même si je me mets des deadlines et que j'ai cette conscience professionnelle qui revient souvent parce que j'ai des projets, je me dis, je ferai en fonction du temps que j'ai. Et en fonction de l'organisation, et en fonction de comment ça se passe. Parce que me dire, ok, j'ai mon congé maternité, je m'octroie du temps, je ceci, je cela, puis je reprends tout de suite derrière, mais peut-être que ça ne se passera pas comme ça, peut-être qu'il va falloir que je prenne plus de temps, peut-être qu'il va falloir que je m'organise différemment. Et ça, c'est ma vision aussi sur cette deuxième grossesse, c'est vraiment de lâcher prise là-dessus. Et je suis ravie d'avoir passé cette grossesse de cette manière-là parce que j'ai effectivement beaucoup plus d'attention envers mon corps, beaucoup plus d'amour envers mon corps. Qui est en train de... Je suis amoureuse de ma première petite fille. Je serai amoureuse de la deuxième. Et je suis fière de pouvoir porter la vie. Et de, même s'il y a des petites... tous ces symptômes et tout ce chamboulement émotionnel qui arrive, j'ai beaucoup plus d'amour envers mon corps aujourd'hui. Donc j'ai pris soin de moi tout au long de ma grossesse, de par l'alimentation, de par les soins, parce que c'est aussi mon métier, c'est ce que je prône chaque jour, et c'est vrai que ça a certainement dû m'aider, beaucoup.
Mmh. Du coup, tu t'es investie dans une formation en naturopathie.
Oui. Complètement, l'année dernière, pendant le premier confinement. Je pensais que c'était le bon moment, d'ailleurs, c'était un de mes projets. En fait, quand j'ai démarré mon activité, à l'époque, je ne pouvais pas, quand je voulais me reconvertir, je me suis dit, si je reprends des études avec un enfant en bas âge, comment je fais pour subvenir à mes besoins? Les études, ça nous paye... On n'a pas de salaire. Donc, je m'étais dit, ça reste dans un coin de ma tête et un de ces quatre, je le ferai. Une fois que j'aurai une stabilité professionnelle et financière, je le ferai. Et c'est resté. Et je me suis dit, premier confinement, je vais prendre le temps, je vais le faire. En fait, je vais me lancer. Ça va professionnaliser mon conseil au niveau de ce que je fais déjà aujourd'hui. Et puis, je vais vraiment mettre le pied dedans, en fait. Enfin, dans ce domaine qui aujourd'hui, au plus j'avance dans cette formation, au plus il y a une révolte et une rage de partager et sensibiliser les personnes autour de moi sur l'importance de prendre soin de soi, l'importance de prendre conscience de ce qu'on a dans notre assiette, de la base, en fait, que le corps est très bien fait, que le corps humain est juste une machine incroyable. Et quand on apprend à l'écouter, quand on apprend à la comprendre, à le comprendre, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau humeur au quotidien, au niveau physique, au niveau santé. Sur tous ces points, en fait, je pense qu'il faut... Et ça me donne envie, et c'est hyper gratifiant d'être dans ce domaine-là, parce qu'on se sent utile, et juste d'avoir des retours, de petits gestes, de petits réflexes de personnes qui nous suivent et qui écoutent nos conseils, et qui se sentent mieux, ça n'a pas de prix. Donc je pense avoir vraiment trouvé ma voie sur ce domaine-là, et forcément, ça projette dans d'autres choses.
Encore une fois. Mon troisième bébé.
mon troisième bébé, oui, au niveau professionnel, parce que voilà, j'ai prévu d'avoir des formations justement pour peaufiner encore mon statut d'entrepreneur et d'avoir vraiment toutes les casquettes, toutes les cartes en main, et de pouvoir évoluer justement sur un concept avec la naturopathie, alors aussi bien en ligne, avec des consultations, etc., avec des e-books, des suivis, des programmes. Et puis, par la suite, pourquoi pas, en fonction de, comme je disais, du rythme avec deux enfants, de faire un concept store, à voir si ça se fera sur Annecy ou ailleurs, mais de faire quelque chose pour justement amener les gens à avoir une vision holistique, une vision globale de leur corps, du bien-être, que ce soit au niveau, comme je disais, mental, physique. Donc... Il y a encore beaucoup de projets à venir.
Ouais, ouais, ouais. Ça t'a porté, ça te porte et ça portera certainement beaucoup de choses aux personnes qui vont être entre tes mains.
Bien sûr, parce que j'ai été mon premier cobaye et je le suis encore aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai cette envie de partager. Parce qu'on peut arriver à un point tellement bas et tellement mal et en sortir. Mais en fait, la base de tout, c'est de prendre soin de soi. C'est de s'écouter, c'est de lâcher prise, tout ça, c'est...
Écouter cette petite lumière intérieure, c'était vraiment très fort chez toi. Oui.
Complètement.
Merci beaucoup Camille pour ce moment d'échange, c'était vraiment top. J'espère que vous avez aussi apprécié écouter son récit. Et je te souhaite d'excellentes choses.
Merci
à ton conjoint d'Apus et puis toi pour ces prochaines semaines. Voilà.
Complètement, j'ai hâte.
À très bientôt.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de petites étoiles. Pour ne rien manquer de nos actualités, nos rencontres, nos conseils, rendez-vous sur mumtobeparty.com ou notre compte Instagram mumtobeparty. À très bientôt.